France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h14. Une carte de France en bleu et rose. Voilà la photo du premier tour des élections régionales. Ce scrutin a été marqué par les bons résultats des présidents de région sortants, qu'ils soient républicains ou socialistes. Quelle place pour les autres partis? Nous allons voir cela avec nos deux invités, Mathilde Panot pour les Insoumis et Sandra Regol pour les écologistes. Et avec moi également, Yael Gauze, le chef du service politique de France Inter. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour Mathilde.
Je commence par vous, Sandra Regol. Vous êtes la secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Ce matin, on a donc une carte en bleu et rose et le vert. Est-ce que vous êtes satisfaite de vos résultats?
Alors, c'est compliqué d'être vraiment satisfaite quand on voit l'abstention record qu'il y a eu hier. Cependant, si vous me posez la question uniquement du point de vue des écologistes, oui, je suis obligée de vous dire qu'on est satisfait. On double quasiment notre score par rapport aux élections de 2015. C'est un score que n'avaient jamais atteint jusque-là les écologistes. On est en capacité, avec nos alliés, de se mettre en position de gagner les Pays de Loire, de gagner l'Île-de-France. On est aussi deuxième dans des régions importantes, stratégiques, comme Auvergne-Rhône-Alpes, où on nous prédisait être dans les tréfonds des élections et où on passe devant le Rassemblement national et derrière Monsieur Wauquiez. Oui, il y a largement de quoi se satisfaire de ça, malgré ce contexte qui ne donne rien de satisfaisant.
Vous ne parlez pas de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est quand même un point essentiel, hein, puisque celui qui a porté vos couleurs, Jean-Laurent Felizia, est arrivé en troisième position avec 16% des suffrages, derrière le RN Thierry Mariani et le LR Renaud Muselier. Et il a décidé de se maintenir, il n'y aura donc pas de front républicain. Vous pensez pouvoir encore le convaincre de renoncer?
On essaye, oui, bien sûr. En tout cas, à cette heure, il n'y aura ni logo Europe Écologie Les Verts, ni logo PS, ni logo PC, ni aucun autre logo qui était soutien au premier tour sur cette candidature.
Mais vous comprenez son attitude? Parce que renoncer, ça veut dire renoncer à avoir des élus pendant 6 ans?
Je comprends l'interrogation qui préside à cette réflexion, c'est-à-dire de se dire que le fait de se retirer ne suffit pas à mobiliser l'électorat pour aller vers les urnes au second tour. En revanche, dans cette situation particulière, avec ce risque de voir Thierry Mariani, Rassemblement National, en tout cas soutenu par le Rassemblement National, être élu à la tête de cette région, quand on envisage les dégâts qui pourraient être faits pour les habitantes et les habitants, eh bien, on a un devoir de responsabilité qu'on assume comme on l'a toujours fait.
Yael Gauze.
Quand il y a ce risque en 2015, en décembre 2015, au premier tour des régionales, le Parti Socialiste, François Hollande, dit à Christophe Castaner: tu te retires, c'est trop dangereux, le RN peut gagner. Vous, vous avez une instance nationale, le bureau exécutif, qui dans la nuit a dit, Jean-Laurent Felizia, vous n'aurez pas l'investiture, il ne vous écoute pas. Qu'est-ce que ça dit? Vous n'avez pas autorité sur votre tête de liste?
Alors, c'est pas une question d'autorité, c'est une question d'organisation. Chez nous, c'est pas Paris qui décide pour les régions, mais les régions qui décident pour elles-mêmes.
Donc c'est un excès de décentralisation qui fait qu'à la fin, les Verts font un peu ce qu'ils veulent, où ils veulent?
Alors, une décision sur laquelle on n'agrée pas n'est pas forcément un problème dans l'organisation. Ce qu'on met en place et ce qu'on revendique, c'est que chaque décision doit être prise à l'échelle de l'endroit qui est concerné. Il se trouve que pour cette décision-là, qui a des conséquences qui sont importantes, eh bien, la direction du parti, à savoir le bureau exécutif, a pris ses responsabilités en retirant le logo, parce que non, Europe Écologie Les Verts ne peut pas participer à une stratégie qui peut faire gagner le Rassemblement National. C'est notre engagement, on l'a toujours tenu, on le tiendra toujours. Et pourtant, c'est douloureux d'en arriver là, quand des compagnons de route font des choix qui ne sont pas ceux qui vont pour le collectif.
Et Sandra Regol, autre région très intéressante du point de vue des Verts, des écologistes, ce sont les Hauts-de-France, hein, la seule région où la gauche était unie sur ce premier tour, une liste emmenée par une écologiste, Karima Deli. Que retenez-vous de ces résultats? Le verre à moitié plein, c'est-à-dire que c'est que la gauche va faire son retour dans l'hémicycle régional, ou le verre à moitié vide, c'est qu'ils sont quand même, vous êtes quand même très très loin derrière les premiers.
J'ai bien envie de garder le verre à moitié plein pour bien commencer la journée, mais je vais même le garder deux fois, puisque le Rassemblement National, malgré tout ce qui nous avait été dit, malgré les sondages, arrive bien plus bas que ce qui était escompté,
un peu plus de 24%, et Karima Deli est à 19%.
Tout à fait. Et ça ne s'arrête pas à la région des Hauts-de-France, mais c'est global et c'est national. Et le parti qui fait la plus grosse chute hier sur ces élections, c'est le Rassemblement National. Le parti qui est en dynamique, c'est Europe Écologie Les Verts. Ce parti dont on disait après les européennes que c'était probablement une erreur si les gens avaient voté pour lui. Ce parti Europe Écologie Les Verts dont on disait après les municipales que c'était sûrement dû uniquement au Covid. Et ce parti dont j'espère on pourra constater qu'il n'est pas suivi que dans les grandes villes, comme on l'a beaucoup trop répété, mais qu'il a un véritable ancrage territorial et national.
Sandra Regol, une dernière question d'Yael Gauze.
En région Sud-PACA, vous dites à Jean-Laurent Felizia de se retirer. Par contre, Karim Adeli, dans les Hauts-de-France, il n'y a pas de risque selon vous, triangulaire, Bertrand, RN et vous. Vous maintenez parce qu'il n'y a pas de risque, d'après vous, par rapport à Xavier Bertrand ?
Il n'y a pas de risque, au vu des scores sortis des urnes d'élection du Rassemblement National en Hauts-de-France. Sinon, notre décision serait exactement la même. Il n'y a qu'une seule volonté dans ces cas de figure, c'est de ne pas laisser le Rassemblement National gagner. Il y a beaucoup d'autres configurations et d'autres raisons qui motivent tout ça, notamment l'urgence climatique, mais je crois que nous manquons de temps pour rentrer dans le fond du sujet.
Merci beaucoup Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Vous étiez l'une des nombreuses invitées de cette matinale spéciale régionale sur France Inter. Je me tourne vers vous à présent, Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne, vice-présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Pour les Insoumis, quel est l'enjeu exactement au second tour ?
Alors bon, l'enjeu, il est d'abord une question de mobilisation. Enfin, ce qui est très clair, c'est que nous ne pourrons jamais gagner dans un océan d'abstention tel que celui-ci. Et on le voit à chaque fois, on passe des seuils sur l'abstention qui est quand même des seuils d'alerte qu'il ne faut pas ignorer. On est quand même 10 points en dessous de la plus forte abstention de ce qu'il y a eu dans la Ve République. Et quand on en arrive à 2 électeurs sur 3, 33 millions de Français qui ne se déplacent plus, je ne sais pas si une démocratie sans électeurs, on peut encore appeler ça une démocratie.
Et donc vous dites à nos électeurs au second tour, allez voter, même s'il n'y a plus de candidats étiquetés La France Insoumise, allez voter quand même.
En fait, l'enjeu principal, c'est comment est-ce que on arrive à redonner goût à la politique. Alors moi, évidemment, je pense au second tour des régionales, mais excusez-moi, je m'inquiète surtout pour la question de la présidentielle. Pourquoi je m'inquiète surtout pour la présidentielle ? Parce que si la tendance actuelle se confirme, on a des chances qu'à la présidentielle aussi, on ait moins 10 points, et que généralement, qui ne va plus voter ? Les gens les plus précaires, les gens des quartiers populaire.
Les jeunes, hein, 87% d'abstentionnistes, c'est les
18-24 ans.
Et nous,
on ne se satisfait pas d'une situation où il y a des élections sans le peuple. Et moi, je dis qu'il y a quand même une responsabilité particulière qui nous inquiète, et c'est pourquoi nous avons insisté sur cette question hier, c'est la question de l'organisation d'une campagne. Bon, vous le savez, on était en temps de Covid, donc évidemment, il y avait une question de réunion publique qui ne pouvait pas se faire, etc. Mais quand vous avez un État qui, depuis 2016, refuse de faire des campagnes d'inscription sur les listes électorales, alors qu'on a 10 millions de personnes qui sont non et mal inscrits. Quand vous avez toute une partie du matériel électoral envoyé par la Poste, qui est envoyé par une boîte privée, Adrexo, avec le désastre qu'on a vu, des gens qui ne recevaient soit rien, soit une partie des informations, et donc des gens
vous
qui
dites
ne sont
désastre,
pas au courant.
Les membres du gouvernement minimisent en disant que c'est une infime minorité et que ce prestataire, de toute façon, est convoqué ce matin par le ministère
des électeurs. 1% des électeurs concernés, d'après le gouvernement.
Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on observe quand on pose la question aux gens. Moi, je crois que c'est beaucoup plus massif que ça. Et quand vous voyez en plus, après, des problèmes sur des bureaux de vote fermés à un endroit ou à un autre, des bureaux de vote qu'on doit fermer parce qu'il manque des bulletins qui étaient pourtant à la préfecture. Bon, il y a quand même une question d'organisation de l'élection qui se rajoute à cette grève civique et qui, du coup, donne une situation qui est quand même extrêmement inquiétante. Et je crois que l'enjeu principal dont on devrait se saisir, c'est cette question-là. Et c'est pourquoi nous continuons à prôner la 6e République et la Constituante pour refonder politiquement ce
peuple. Et avant cela, vous réclamez une commission d'enquête parlementaire sur l'organisation du scrutin. Qu'est-ce que ça dit en filigrane ? Vous sous-entendez que l'État, le gouvernement, est complice d'une élection désertée
Je ne sais pas si je dirais complice. En tout cas, il y a des questions de conditions d'organisation de l'élection dont je parlais à l'instant. Là, vous dites par exemple 1% pour Adrexo. Nous, ce n'est pas ce qu'on observe lorsqu'on pose la question aux gens. Donc, par exemple, une des questions, ça serait, en privatisant l'envoi du matériel électoral, combien de gens n'ont pas eu l'information à leur domicile ou de manière incomplète ? Parce que, pourquoi j'alerte sur cette question-là ? Pourquoi j'insiste sur ce point-là ? C'est la boîte privée qui et pour l'instant, qui a le marché pour 51 départements pour 4 années. Ça veut dire aussi pour la présidentielle. Donc il y a quand même un problème à nous dire tout le temps, efficacité de la privatisation, etc. Eh bien oui, nous nous croyons en service public et au fait que tout le monde doit être informé des élections dans notre pays.
Et donc je vous repose la question que je vous posais tout à l'heure, hein, face à cette abstention. Que dites-vous à vos électeurs pour le second tour ?
Bien, nous faisons le travail de terrain au maximum pour justement donner cette information, pour convaincre les électeurs. Alors, nous avons un enjeu autour de la région Île-de-France. Il y a aussi les Pays de la Loire où effectivement nous sommes alliés à Europe Écologie Les Verts. Et si nous pouvions réussir à faire basculer des régions, notamment en Île-de-France, où Madame Pécresse est celle qui a divisé par 2,5 le budget du logement social, oui, je pense que ça serait quelque chose pour l'intérêt général qui serait intéressant.
Où votre candidate Clémentine Autain a réussi à dépasser très légèrement à la barre des 10%. On sait que les tractations ont débarré dès hier soir. C'est en tout cas ce que disait Julien Bayou, qui est arrivé en tête pour les forces de gauche. Vous savez s'il y a un accord qui a été conclu, ça y est ?
Non, ça je ne sais pas encore. Ça a dû être pendant mes quelques heures de sommeil. Non, mais par contre, pour le coup, Clémentine Autain avait été très claire, comme d'ailleurs tous les candidats pendant la campagne, pour dire que bien évidemment, il y aurait un désistement pour la liste de gauche qui serait arrivée en tête. Donc, je crois que l'accord va être trouvé.
Mais est-ce que vous êtes tout de même étonné des maigres résultats de la France insoumise à ces élections ?
Non, parce que oui, quand les quartiers populaires ne vont pas voter, quand la jeunesse ne va pas voter, oui, nous ne pouvons pas gagner. Nous sommes une force populaire. Nous avons, je crois, réussi, notamment en 2016-2017, à ramener énormément de gens aux urnes, à réintéresser et à redonner goût à la politique.
Oui, mais c'est un peu votre âge d'or, ça. À chaque fois, vous dites ça, mais là, aux européennes, vous avez fait 6,31%. Vous avez été quasiment éliminé partout au premier tour des municipales l'an passé. Là, le score national, c'est 5,2%. Pour LFI et ses alliés. Quand les Verts sont à 13,2 et le PS à quasiment à 16. Est-ce qu'il n'y a pas un décrochage à gauche de LFI ?
Je vous le redis, comme je le pense, dans un océan d'abstention avec 70% d'abstention, oui, la France insoumise est faible, et la France insoumise est faible parce que, justement, très
c'est
peu de gens s'intéressent.
C'est son électorat qui ne vote pas.
Évidemment, regardez le sondage qui a été fait, l'électorat qui s'abstient le plus, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon, à 75%. Donc, oui, nous avons un enjeu de mobilisation, et je vais vous dire aussi, un enjeu autour de la présidentialisation de notre pays, parce que à force d'avoir un monarque républicain comme Emmanuel Macron, eh bien oui, toutes les élections intermédiaires ont l'air annexes avec les gens qui se demandent qu'est-ce que ça va changer dans ma vie. Alors nous faisons tout ce que nous pouvons, mais je le dis, nous avons 2022 et pour moi, l'enjeu, c'est que les gens puissent se saisir de ce qui peut changer notre avenir en commun.
Jean-Luc Mélenchon a des mots forts. Hier soir, il a dit je veux convaincre chacune et chacun qu'il ne faut pas donner de région au RN. Est-ce que c'est une clarification par rapport à l'absence de consignes qu'il donnait en 2017 à la présidentielle, et au mois de mars sur France Inter, il disait les consignes, ça sert plus à rien, ça n'a aucun poids, faut vivre avec son époque. Là, cette fois-ci, on dirait que le message est plus limpide le barrage
au
RN.
Exactement, c'est toujours la même chose. Je crois que les consignes appartiennent à un autre temps. Je crois que plus personne n'écoute des consignes et que lorsqu'on respecte l'intelligence des gens, nous disons pas une voix au Front National.
Donc en PACA, voter Muselier, vous dites ça ?
Comment ?
En PACA, voter Muselier, vous
non,
dites ça ?
Non, nous ne disons pas ça. Nous disons il faut battre le Rassemblement National. Après, vous le comprenez comme vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment, pourquoi est-ce qu'il dit il faut convaincre les gens ? Parce que c'est ça l'enjeu. C'est non pas de dire j'ai un électorat qui m'appartiendrait et auquel je dirais de faire ça ou si, mais de convaincre autour d'idées, et pour le coup, qui est celui de dire nous ne voulons pas d'un Rassemblement National qui est violent, qui n'organise pas le partage des richesses, etc. etc.
Mathilde Panot, vice-présidente du groupe La France Insoumise, à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Inter. Merci à vous également, Yaël Gauze. Et on reviendra sur ces régionales dans une dizaine de minutes avec Stéphane Zumsteg de l'Institut Ipsos.
France Inter.